Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8. Bienvenue pour la rentrée tardive de Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter le roman Semiosis de Sue Burke, publié originellement en 2018 et en 2019 dans la traduction française de Florence Burry chez Albin Michel Imaginaire. Sue Burke est née en 1955 à Milwaukee, dans le Midwest des États-Unis. Dès sa jeunesse, cette grande amatrice de science-fiction commence à écrire des reportages pour le journal local. Plus tard, elle travaille pour divers journaux et magazines. En 1995, elle commence à publier des écrits de fiction et aussi des essais et de la poésie. En 1999, elle s'installe avec son mari à Madrid, en Espagne, où elle enseigne l'anglais et étudie l'espagnol. Elle se met alors à traduire des romans, de la poésie et des livres historiques médiévaux de l'espagnol vers l'anglais. En 2016, Burke gagne le Alicia Gordon Award for World Artistry in Translation, une récompense pour des traductions particulièrement créatives. En 2018, sort son premier roman, Semiosis, dont on vous parlera ici, suivi un an plus tard d'un deuxième tome, Interference, qui n'est pas encore traduit en français. Le troisième tome de la série, Usurpation, est annoncé pour 2024. Entre-temps, Burke a publié un autre roman indépendant cette année, sous le titre Immunity Index. Dans son dossier de presse, l'autrice, qui vit maintenant à Chicago, tient à préciser qu'elle n'a ni enfant ni animal domestique, seulement beaucoup de plantes qui l'ont très bien dressée.
Dans Semiosis, Sue Burke raconte l'histoire de la colonisation d'une planète. Le scénario est assez banal finalement. C'est la merde sur Terre, la guerre, le réchauffement climatique et la famine ravagent la planète. En 2065, une cinquantaine de personnes partent en vaisseau pour coloniser une nouvelle planète. Y elles sont peu nombreux et sont mis en sommeil le temps du voyage. L'histoire commence à leur débarquement. Leur objectif ? Créer une société utopique, et pour cela, Yel ont signé une constitution pour la nouvelle société. La planète est appelée Pax, et l'objectif est de s'y intégrer sans modifier ou bouleverser l'écosystème. Les conditions de vie sont rudes, une partie de l'équipage est mort, une partie du matériel importé est inutilisable, tout est nouveau et doit être analysé, compris, pour pouvoir être utilisé. Il semble que la planète est inhabitée, qu'il n'y a pas d'espèce intelligente. Mais assez vite, Yel vont en découvrir une, et cette espèce est végétale. Chaque chapitre du livre est raconté par une génération différente. Ce sont de longs chapitres, et l'autrice va jusqu'à faire de ce végétal l'un des narrateurs du roman. Confrontée aux difficultés matérielles, aux conflits relationnels et intergénérationnels, à des viols, des assassinats, la constitution de Pax est mise à rude épreuve.
La guerre avait commencé bien avant notre arrivée. C'était leur mode de vie. Elle fit ses premières victimes dans nos rangs avant que nous ayons compris ce qui se passait, par une soirée calme en apparence. Pourtant, nous savions déjà à l'époque que le danger guettait sans doute.
C'est par ces mots que commence le roman Semiosis. Octavo, le narrateur du premier chapitre, parle ici de la guerre qui oppose certains végétaux entre eux, mais qui oppose aussi la faune et la flore. Il est le seul botaniste rescapé de la première génération et va petit à petit découvrir que certaines plantes de la planète Pax sont douées d'intelligence. Au début, certaines lianes se mettent à produire des fruits toxiques quand d'autres restent comestibles. La liane toxique se met à attaquer les champs des humains. Le biologiste se rend compte que les deux lianes sont en guerre et qu'elles sont intelligentes.
La liane s'en est prise à nos cultures. Elle sait que nous ne sommes pas des fipochas. C'est comme la guerre du maïs sur Terre. Contrôler les ressources alimentaires est un moyen de remporter un conflit. « Allez, arrête !» lâcha Brian. Elle a attaqué le champ parce que c'était un bon terrain pour se développer. Il était trop éloigné, plus de 500 mètres. Et elle a ignoré de meilleurs terrains comme la source. Elle a analysé notre comportement et pris une décision. Une décision complexe. Puis l'autre liane blanche a décidé de devenir notre allié. Elles sont assez intelligentes pour ça. Elles raisonnent.
L'intelligence et le comportement des plantes est l'un des thèmes centraux de ce roman. L'autrice, Sue Burke, décrit les relations qui se construisent entre les végétaux et les animaux. Dépendance, méfiance, hostilité, profit, exploitation, servitude, mais aussi soutien mutuel, curiosité. Et au fil de la narration, s'installe l'idée que certaines plantes domestiquent les animaux, notamment pour que ceux-ci lui apportent de l'eau et des nutriments. Même si la plupart des humains sont persuadés d'avoir domestiqué la plante.
Je décrivis comment les individus de cette espèce s'affrontaient, empoisonnant d'autres plantes et se servant d'animaux pour produire de l'engrais, répandre leurs graines et peut-être davantage. On pourrait sûrement transplanter des rhizomes de la liane de l'Est pour garder nos champs, mais... Wendy, demi-pied, m'interrompit. Et c'est parfait, d'autres acquiescèrent. Mais nous devrons être ces fipochas, expliquai-je. Nous travaillerons pour elle et non l'inverse. Elle ne nous aidera que pour s'aider elle-même. On lui fournira à boire et à manger, par l'irrigation, les latrines et le cimetière. Et on lui permettra de s'étendre, exactement comme une colonie de fipochas. C'est très bien, fit Wendy dans un sourire. On voulait s'insérer dans l'écosystème, on ne sera plus des intrus, et ça n'aura pris que 2 mois. Oh, c'est encore mieux que ce que j'imaginais.
Et à l'inverse, la plante est convaincue d'avoir domestiqué les animaux. En échange de fruits comestibles, avec un bon goût et des vitamines nécessaires, par exemple.
Je sens le fer. Il circule en abondance de mes racines à la pointe de mes feuilles pour fabriquer de la chlorophylle et transporter des charges électriques nécessaires à la respiration et à la photosynthèse. Le fer, c'est la croissance. Ce fer, issu de la chair des nombreux animaux enterrés pour me nourrir. Les premiers étrangers m'ont appris que le sol de ma sphère manque de fer. D'après eux, des sphères et des soleils d'une variété infinie tournent dans le ciel. Le fer existait en abondance sur leur sphère, et c'est le cas ici aussi, mais il est enfoui au cœur de la sphère, bien plus loin que ma racine la plus profonde ne peut puiser, inaccessible donc. Beaucoup d'animaux ont besoin de fer, tout comme nous les plantes, et les animaux riches en fer sont nourrissants. L'histoire dit que nous les avons d'abord tués par le poison, mais à mesure que notre intelligence grandissait, nous les avons dressés pour qu'ils vivent et meurent à nos racines en tant qu'animaux domestiques. Un approvisionnement lent mais régulier en fer.
C'est une question de fond du roman. Qui domestique qui ? Est-ce qu'une des deux espèces profite de l'autre ? L'exploite ? La contrôle ? Une relation équilibrée est-elle possible ? D'ailleurs, au début, les relations avec les plantes et l'écosystème sont profondément empreintes de méfiance. La plante veut-elle contrôler et manipuler les humains, les rendre profondément dépendants, ne poursuivre que ses propres intérêts ? La méfiance est l'un des moteurs des relations entre les humains et les autres espèces, alors même qu'elles viennent sur Pax avec un idéal pacifiste. Une des questions fondamentales du roman est donc comment se construit la confiance ? La confiance y est présentée aussi comme une sorte de posture, de dynamique, où on part de l'envie de faire confiance, de l'espoir dans la relation, même si on ne comprend pas tout ce qu'il se passe, que tout est nouveau. Au contraire, est-ce qu'on aborde la situation avec de la crainte, de la suspicion ? C'est très intéressant car cette posture est présentée comme un choix, même si à plein de moments, on ne peut pas savoir ce qu'il va se passer, comment ça va se passer. On peut faire le choix de la confiance ou celui de la méfiance.
Les animaux adoptent des comportements prévisibles, pas les plantes. Elles ne pensent jamais comme nous. Cette plante pourrait ne pas être amicale. Ah, si les lianes blanches ont su décider de nous donner des fruits, celle-ci pourrait en faire autant. On a toujours besoin de nourriture. Et une plante plus intelligente saurait tout ce qu'on peut faire pour elle en échange de nourriture.
L'un des enjeux importants de la rencontre, c'est la communication. La possibilité de communiquer permet aux espèces de se comprendre et, par exemple, de construire de la confiance, ou pas. Le roman de Sue Burke montre comment la communication interespèce prend énormément de temps et met des dizaines d'années, plusieurs générations à se construire, jusqu'à établir un langage commun. Mais l'autrice montre aussi que la communication n'est pas seulement basée sur le langage. Elle peut aussi se construire à travers des sortes de services rendus.
Les plantes voient. Elles poussent vers la lumière et on observe l'angle pour connaître la saison. Elles reconnaissent les couleurs. Celle-ci affiche des couleurs sur sa tige pour montrer quelque chose. C'est un signe que cette plante est intelligente. Elle est capable d'interpréter le spectre visuel et de contrôler ses réactions. Alors elle veut nous attirer ? Enfin, à attirer des êtres intelligents ? Non, c'est un avertissement, comme les épines. Qui sait ce qu'une plante peut penser ? Je doute qu'elles éprouvent une tendresse naturelle pour les animaux. Nous ne sommes que des outils.
Et d'ailleurs, sur son blog, Sue Burke définit la sémiose, d'où vient le titre de son roman, Sémiosis.
La sémiose, du verbe grec sémio, marqué, est toute forme d'activité, de comportement ou de processus qui implique des signes, y compris la production de sens. Une action ou un processus impliquant l'établissement d'une relation entre un signe et son objet et son sens. La sémiose englobe plus que la sémantique qui se concentre sur le langage. Elle peut inclure des systèmes humains et non humains qui utilisent des signes chimiques, auditifs, visuels ou tactiles pour transmettre des informations.
En d'autres termes, la sémiose concerne la communication. Et la difficulté de communiquer est l'une des raisons qui font que la rencontre prend du temps. Mais ce que montre le roman Sémiosis, c'est aussi que la rencontre est un apprentissage. Au fil de l'histoire, les relations entre les plantes et les humains se solidifient. Et en se côtoyant, les humains vont évoluer en tant que groupe social, et l'une des plantes en tant qu'individu. Celle-ci va apprendre à faire des choix, à poser un regard critique sur son histoire, ou va par exemple expérimenter l'humour. Dans les chapitres racontés par une plante, les lectrices en apprennent plus sur les autres végétaux, leur communication et les relations entre elles. Elles ont des comportements très différents, des sortes de caractères. Certaines sont préoccupées par le futur quand d'autres vivent au présent. Certaines sont très intelligentes, d'autres moins. Certaines se foutent pas mal de l'existence des animaux, d'autres en ont besoin. Ces passages dénotent de l'intérêt de l'autrice pour le monde végétal. Voilà comment elle parle de l'idée de ce roman.
Tout a commencé il y a 25 ans, quand une de mes plantes intérieures en a attaqué et tué une autre. Un mois plus tard, alors que je surveillais plus attentivement les plantes, j'ai empêché une autre attaque. Cela m'a incité à faire des recherches et j'ai appris que les plantes sont par essence agressives et se battent à mort pour la lumière du soleil et tout ce qui peut leur servir de ressource. Les plantes sont également très conscientes de leur environnement et manipulent les animaux sans vergogne.
Elle dit aussi
« Les plantes sont agressives, voire meurtrières, conscientes et actives, impatientes, manipulatrices, capables de façonner leur environnement et elles disposent de nombreux outils de survie, tels que la capacité de créer une large gamme de produits chimiques. Certaines plantes, surtout les arbres, mènent aussi une vie sociale intense et souffrent quand elles sont seules. Les arbres des villes ne vivent pas aussi longtemps que les arbres des forêts.
Vous êtes toujours sur Radio Dragon 104.4 et 96.8 et Campus Grenoble 90.8 avec Vortex et Rotative.
Aujourd'hui, on vous présente le roman Sémiosis de Sue Burke. L'histoire de Sémiosis s'étend sur plus de 100 ans. C'est donc une sorte de roman-fleuve composé de 7 chapitres. Chaque chapitre est raconté par un personnage appartenant à une génération différente, parfois en alternance avec la voix du végétal. Jusqu'à la 4e génération, les chapitres sont espacés de 20 à 40 années, et ensuite alors autant l'avancée de l'installation que l'évolution du rapport à la planète, ainsi que les enjeux propres aux générations successives. Pour Sylvia, qui appartient à la 2e génération, qui est donc née sur Pax et n'a jamais connu la Terre, la planète d'origine des parents reste un mystère, mais qui perd de plus en plus son importance.
Toute petite, Je croyais que Pax était quelque part sur Terre, car beaucoup de choses portaient le même nom ici que dans les programmes éducatifs. Mais il y avait aussi de grosses différences, de sorte que, plus tard, je conclus qu'il existait une distinction complexe entre la Terre et Pax, en ce qui concernait les animaux, les plantes et la nourriture. J'étais inquiète à l'idée que la Terre et ses grands habitants fragiles au nom complexe se trouvent de l'autre côté du lac, et qu'ils puissent le traverser, car ils avaient fait de la Terre un enfer. Les parents le répétaient sans cesse. Puis, je compris que la Terre se trouvait très loin, qu'on n'en avait gardé qu'une bibliothèque numérique de textes, de musique et d'images, évoquant des histoires compliquées et des endroits que je ne visiterai jamais. Je finis d'ailleurs par les voir de moins en moins à mesure que les ordinateurs tombaient en panne. Près de nous, sur Pax, il n'y avait pas de forme de vie intelligente, rien que les lianes blanches et quelques carnivores sournois. Mes parents étaient déçus et je le fus aussi quand je compris que les seules nouvelles têtes que je verrais jamais seraient les bébés à naître. Je rêvais de croiser des extraterrestres.
Plus tard, Sylvia se met à questionner la posture de la première génération.
Les enfants ne pensaient pas par eux-mêmes. On faisait ce qu'on nous disait parce qu'on était convaincus de ne pas en comprendre assez pour prendre nos propres décisions. C'était ce qu'on nous serinait en permanence, alors comment lutter ? On était censé se satisfaire d'être comme nos parents, et travailler ensemble, dans l'harmonie, importait plus que de réfléchir comme des individus. On était encore des enfants, alors même que la plupart d'entre nous avaient entre 20 et 30 ans. Que se passerait-il quand tous les parents seraient morts ?
De génération en génération, on suit ainsi non seulement le déroulement de l'histoire, mais aussi de quelle manière celle-ci est racontée par la suite. Comment des détails sont omis ou transformés pour répondre à un enjeu ou intérêt de la génération actuelle, et comment la version transmise devient ensuite l'histoire officielle. On comprend des fractures racontées par différentes voix et depuis différents points de vue. On voit comment des secrets sont fabriqués et comment leur signification peut changer avec les générations qui se suivent. Comment un savoir se transforme en une sorte de croyance qui sert ou alimente des postures politiques divergentes. Comment certains événements deviennent des sortes de mythes fondateurs pour consolider un projet de société. Sémiosis est donc aussi une réflexion sur pourquoi et comment écrire l'histoire.
J'ai essayé de m'imaginer rédigeant une histoire de Pax, mais il y avait tant de choses que je ne saurais jamais. Trop. Pourtant, il fallait que quelqu'un le fasse. Je pourrais commencer par ce que je savais et ce que je pourrais apprendre afin que notre histoire survive et qu'on puisse découvrir notre vérité. Notre avenir constituerait une autre découverte. Ou, si nous comprenions le cheminement qui nous avait mené où nous en étions, il pourrait devenir un choix. L'idée des pacifistes est de quitter la Terre pour tenter de créer un monde meilleur, ailleurs, de construire une utopie. Pour cela, Yel ont écrit et validé collectivement une constitution.
Notre civilisation future serait fondée sur le meilleur de la Terre, dans le respect de toute forme de vie, la justice et la compassion, et on y rechercherait la joie et la beauté. Sur nos ordinateurs, les programmes éducatifs destinés à nos enfants n'évoquaient pas les absurdités terriennes telles que l'argent, la religion et la guerre. Certains estimaient que nous allions contaminer un écosystème extraterrestre, mais nous comptions nous adapter, y contribuer et surtout nous assurer que le destin de l'humanité ne dépendrait pas d'une unique planète en danger.
L'autrice a d'ailleurs écrit et mis sur son blog la constitution complète de Pax. Mais ce roman n'est pas du tout le récit d'une utopie. Le récit parle du désir d'une société pacifiste, mais développe surtout la recherche, les tentatives, mais aussi les échecs. Finalement, Sémiosis est très singulier dans sa manière d'aborder la question de l'utopie. C'est un point de départ, mais dont l'objectif n'est pas de mettre en scène une société utopique. Les personnages sont pleins de bonnes intentions, mais Yel sont aussi confrontés à des conditions de vie très dures, d'autant plus qu'Yel ont perdu une partie de leur matériel à l'atterrissage. Elles, eux, ont bien des savoirs et des savoir-faire terriens, mais ces connaissances ne sont pas adaptées à la nouvelle planète. Elles doivent donc s'adapter à un nouvel écosystème, où elles trouvent trop peu de nourriture, un manque de matières premières, ont des habitats pourris, de nouvelles maladies, etc. Yale doivent tout inventer ou réinventer, depuis l'organisation matérielle jusqu'à l'organisation sociale. Et parfois, on a l'impression qu'ils se sont mal préparés, en tout cas, qu'Yale n'avait pas imaginé que ce soit si difficile.
On s'attendait à rencontrer des épreuves plutôt qu'à découvrir le paradis. On l'avait dit et redit. Mais en réalité, on aspirait à un monde paradisiaque. On pensait pouvoir venir en paix et se trouver une niche confortable dans un autre écosystème. À la place, on avait découvert un champ de bataille. La liane de l'Est faisait de nous ses mercenaires serviles. Rien d'autre que de gros fipochats malins qui l'aidaient à remporter une nouvelle bataille. On croyait pouvoir repartir de zéro, loin de la Terre et de ses erreurs. Ce n'était pas le cas. Mais j'étais le seul à m'en rendre compte et je gardais ma déception pour moi. Un jour, j'expliquerai peut-être à nos enfants les compromis que nous avions dû consentir pour survivre.
Cette question de l'utopie et du fait d'être parti de Terre est un enjeu intergénérationnel. La deuxième génération, née sur Pax, ne connaît de la Terre que ce qu'on a bien voulu lui dire. C'est un des pivots des conflits entre la première et la deuxième génération.
C'était comment la Terre, en réalité ? Honnêtement, les livres nous racontaient beaucoup d'horreurs. Mais je sentais qu'il ne disait pas tout. Maman avait mal aux os et au ventre, et elle répétait toujours que tout ce qui lui changeait les idées était bienvenu. Ses lèvres grises esquissèrent une moue, et elle réfléchit un moment. C'était stressant et compliqué. En fait, ce n'était pas si horrible pour nous, parce qu'on était riches, du moins par rapport au reste du monde. D'autres gens mouraient de faim, alors que nous avons réussi à rassembler assez d'argent pour partir vers les étoiles. Riche ? Elle était riche, on ne m'avait jamais dit ça. Et si vous n'étiez pas partie, maman, on aurait tous mené une vie plus facile. Toi aussi, sans doute. Aujourd'hui, tout le monde aime bien s'étendre sur la pollution, les maladies, le début de la fin de l'humanité, n'est-ce pas? Mais les riches s'en sortaient. Il n'y a que les pauvres qui s'entretuaient, ou qui s'efforçaient de ne pas mourir de ceci ou cela. C'était tragique.
Questionnée sur son choix de mettre en scène un projet d'utopie dans Sémiosis, l'autrice Sue Burke répond ceci.
J'espérais trouver un moyen par lequel les colons pourraient créer une société inédite en complète harmonie avec la nature, même si cela impliquerait des difficultés, des dangers et un échec potentiel. S'il y a un plaisir dans la dystopie, c'est celui de la détruire pour créer une société meilleure. Mes colons s'échappent d'une terre dystopique, et Sémiosis explore la deuxième étape du processus, la création d'une société meilleure. La création est plus difficile que la destruction, donc c'était un défi plus grand et plus intéressant.
Un des points faibles de Sémiosis réside dans le fait que, côté humain, il y a des hommes et des femmes, et celles et ceux qui ne sont pas stériles vont alors former des familles hétéros. Il y a un seul personnage qui couche avec tout le monde, mais à part ça, la binarité hétérosexuelle est écrasante, il faut bien le dire, et c'est vraiment dommage. Après, les rôles des femmes et des hommes ne sont pas forcément genrés. Parmi les modératrices qui sont les chefs de la communauté, il y a bien plus de femmes que d'hommes. Il y a des femmes qui chassent et des hommes qui s'occupent des gamins. Mais ces questions ne sont quasi pas discutées sur ce point-là. Même la charte de Pax se lit comme un article des droits humains, déclarant que tout le monde est égal en droit, peu importe le sexe ou l'orientation sexuelle. Autant dire que ça reste bien léger. Il y a cependant un chapitre qui questionne la virilité chez les hommes. Higgins, le narrateur, est d'une sensibilité extraordinaire qui le rend très attentif et empathique. En raison de la qualité de ses gènes et de la stérilité croissante des hommes de la colonie, de nombreuses femmes choisissent d'avoir des relations sexuelles avec lui pour se reproduire et de profiter de ses soins très attentifs et réconfortants pendant la grossesse et l'accouchement. Mais elles vont élever les enfants ensuite en famille avec d'autres hommes.
Passé les mois de la naissance, chaque fois, je me retrouvais seule avec ma dépression postpartum personnelle. Une dépression liée au paradoxe philosophique d'être à la fois le père d'un enfant sans l'être tout à fait.
Même s'il prend un plaisir évident dans les nombreuses relations sexuelles, Higgins souffre alors du fait de ne pas faire partie d'une cellule familiale d'un côté et de l'autre d'être considéré par les autres hommes comme un jouet des femmes. mais un événement imprévu lui fournira une occasion de prouver que sa sensibilité lui donne aussi une grande valeur pour la colonie. Plus généralement, il faut dire que les personnages sont vraiment bien écrits. Non seulement il y a une grande place faite aux femmes, mais comme les chapitres sont longs, on a le temps de bien plonger dans le point de vue et la manière de penser de chaque narratrice, de comprendre le caractère plus profond et ce qui est propre à chacune d'elles et d'eux. Burke parvient ainsi à donner une épaisseur, une consistance à ses personnages qui est assez convaincante.
Un autre problème est la représentation raciale dans le livre. En fait, ça ne parle à aucun moment de racisme. Les personnes vont sur une nouvelle planète et veulent créer une nouvelle société, une nouvelle organisation sociale, mais Yell ne nomme pas l'un des grands systèmes de domination terrien qu'est le racisme, ni de l'impact qu'il aurait sur Pax. Même quand les personnages relatent les guerres terriennes, le racisme et le colonialisme ne sont pas nommés comme des enjeux. Le livre est écrit comme si tous les personnages étaient blancs, puisque les seuls descriptifs physiques sont plutôt des caractéristiques de personnes blanches. Alors quoi ? Ce projet de colonisation de planète est-il un projet ségrégationniste, excluant les personnes racisées ? Et pour les réserves de sperme et d'ovules qui sont utilisées au début de la colonisation, aucune personne noire, par exemple, n'a pu donner ses gamètes ? Bref, il semble que ce soit un impensé terrible de ce livre de ne pas parler de racisme, de ne décrire que des personnages blancs, montrant une tentative de société idéale, basée en fait sur une uniformité raciale et culturelle. Enfin, ce n'est finalement pas du tout un idéal de société.
Et c'est d'ailleurs un tort que ce roman, qualifié parfois de roman écologique, partage malheureusement avec un certain nombre de mouvements écologistes. Sue Burke, elle-même est blanche, vous l'aurez deviné, ne semble pas être complètement ignorante des enjeux de personnes racisées. Sur son blog, elle raconte par exemple qu'elle a choisi d'apprendre l'espagnol, puisque c'est la deuxième langue aux États-Unis et que cela lui semblait évident, ce qui peut être vu comme une manière de reconnaître les populations latinas aux États-Unis. Mais en tout cas, dans ce roman, il semble bien que sa priorité ait été surtout la reconnaissance d'autres espèces.
J'espère changer les lecteurs de deux façons. D'abord, j'espère qu'ils seront beaucoup plus respectueux de leurs plantes d'intérieur et de leurs jardins. Ensuite, je souhaiterais qu'ils comprennent à quel point toutes les formes de vie sont étroitement liées et interdépendantes. Je voulais explorer ces relations. La science-fiction m'a donné les outils pour le faire, surtout pour me concentrer sur cette question clé. Et si notre interdépendance l'emportait sur toutes les autres préoccupations ? Notre survie en tant qu'espèce dépend de la survie d'innombrables autres espèces. Nous en faisons l'expérience actuellement. J'espère que cette idée fera son chemin parmi les lecteurs du roman. En conclusion, on peut quand même dire que ça fait énormément de bien qu'un roman parle d'intelligence et d'apprentissage, de construction des émotions ou de l'humour, de la conscience de soi, etc., autrement qu'en mettant en scène des intelligences artificielles. D'une manière, ce sont les mêmes questionnements existentiels et les mêmes questionnements des relations entre les humains et d'autres groupes sociaux, non pas à propos de programmes informatiques, mais en se concentrant sur des êtres vivants qui existent bel et bien. Ça permet de se poser de belles questions, sans tomber dans la classique fascination de la technologie et des intelligences artificielles.
Voilà, nous sommes à la fin du 10e épisode de Vortex et Rotative et nous vous avons parlé du livre Semiosis de Sue Burke, publié aux éditions Albin Michel Imaginaire.
Si ce livre vous inspire et si vous lisez l'anglais, faites un tour sur le site semiosispax.com où l'autrice publie plein de trucs autour du roman, comme la charte, des anecdotes qui lui ont inspiré des personnages ou d'autres éléments du récit, des extraits inédits ou des fins alternatives.
L'émission est montée avec des bouts de musique de la pianiste polonaise Hania Rani.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.